Nous allons ce matin ouvrir la parole de Dieu ensemble. Alors si vous aviez gardé vos Bibles ouvertes à Matthieu 28, l'histoire de la résurrection, il ne fallait pas, puisque aujourd'hui nous n'allons pas lire à nouveau l'histoire de la résurrection, mais plutôt un livre qu'on n'a pas trop l'habitude de consulter le jour de Pâques. Donc, Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6, donc un des petits prophètes. Texte inhabituel, mais qui souligne l'immensité de la grâce de Dieu pour nous, que justement nous fêtons un dimanche de Pâques. Michée chapitre 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce matin, donc, nous allons nous poser trois questions à travers ce texte. Deux, pourquoi et un comment. Donc, premier, pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin du salut? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus vienne sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus monte sur la croix? Pourquoi est-ce que la résurrection était nécessaire? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de ce salut en Jésus-Christ? Alors pour ceux qui ont suivi les études bibliques dans le livre d'Ésaïe, ce livre, ce texte qu'on vient de lire a sans doute un petit air familier. Et ce n'est pas pour rien, puisque le prophète Michée exerçait son ministère en même temps que le prophète Ésaïe. Donc, il faisait face aux mêmes réalités parmi le peuple d'Israël. Il parle donc beaucoup de cette même situation, sauf que Michée, par rapport à Ésaïe, Michée ne s'adresse pas uniquement ou principalement à Jérusalem, mais à tout le peuple d'Israël. À l'époque donc où le royaume était divisé en deux, il parle autant au peuple du nord qu'au peuple du sud, puisque finalement même Ésaïe, dans ses reproches à Jérusalem, dit qu'il y avait peu de différence entre eux. Mais donc ils ont tous les deux prophètes le même message à s'adresser au peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple sera puni à cause de son péché. Le peuple vivait comme si Dieu soit vivait tout le temps les yeux fermés, soit considérait que péché, c'était pas si grave que ça, et donc ils aimaient bien porter le nom de Dieu, se considérer comme le peuple de Dieu, tout en exerçant la liberté de vivre comme bon leur semblait. Mais donc Dieu annonce à travers Ésaïe, à travers Michée, qu'il a bien vu que le fait qu'il n'intervienne pas directement ne veut pas dire qu'il reste indifférent, mais qu'il est en train de noter et qu'il y aura un jour pour rendre des comptes. Et les deux prophètes annoncent finalement la même condamnation contre le peuple d'Israël. Michée, dans le chapitre 4, verset 10, dit « Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. » Donc la condamnation que Ésaïe annonce également dans le chapitre 39 de son livre. Mais comme Ésaïe, Michée aussi annonce le même message du salut. On avait vu dans Ésaïe, dans les études bibliques, chapitre 39 parle du fait que Dieu va punir son peuple en les envoyant en exil à Babylone. Et puis tout de suite, derrière cela, dans le chapitre 40, on a ce message de consolation. Où donc Dieu dit à Ésaïe, consolez mon peuple. Annonce-lui le salut qui suivra cette condamnation. Michée le fait aussi, suite donc de ce verset 10 dans le chapitre 4, « Tu iras jusqu'à Babylone et là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. » Dieu annonce tout de suite avec la condamnation le salut qu'il va envoyer. Mais tous les deux donc parlent d'un salut, non seulement dans le sens de revenir de Babylone en Israël, mais aussi un salut plus lointain. Le chapitre 4 de Michée commence avec exactement les mêmes paroles qu'Ésaïe chapitre 2 concernant les plans futurs de Dieu pour son peuple, concernant les plans de Dieu pour Jérusalem, pour cette nouvelle Jérusalem qu'il va fonder, d'où il régnera sur la terre entière à travers son Messie. Ésaïe et Michée parlent donc tous les deux d'un salut que Dieu va envoyer dans les années à venir pour le peuple juif, mais également un peu plus tard avec cette nouvelle Jérusalem avec le Messie qu'il va envoyer. Et les deux prophètes, Michée et Ésaïe, donnent des informations complémentaires concernant la personne de ce Messie qui allait venir, qui serait le Sauveur. Ésaïe, on connaît bien le chapitre 53, qui parle de ce serviteur qui va se sacrifier pour rendre possible ce plan du salut, pour que des pécheurs puissent devenir purs, assez saints pour vivre dans un royaume où le péché n'existera plus. Ésaïe nous dit que le serviteur va mourir en portant les péchés du peuple de Dieu, va leur donner sa perfection pour rendre cet avenir possible. Michée nous parle de la naissance de ce Messie. Chapitre 5, versets 1 et 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où on enfantera celle qui doit enfanter. » C'est justement Michée que consultent les experts à Jérusalem lorsque les rois mages arrivent au palais d'Hérode en demandant où est celui qui est né roi des Juifs. Et c'est là qu'ils apprennent que ce sera donc à Bethléem, puisque donc le Messie devait naître là. Et vous avez peut-être remarqué dans ce texte-là concernant la naissance de Jésus, Michée, tout comme Ésaïe, note en passant que ce serviteur, ce Messie, sera à la fois Dieu et homme. Puisque donc, Michée dit que donc le Messie va naître à Bethléem, petit entre les milliers de Judas, mais note que celui qui va naître à Bethléem, ses activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Tout comme nous dit l'apôtre Jean, au commencement. Donc, avant que notre univers n'existe, ce commencement qu'on trouve dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Rien de ce qui n'existe, n'existe sans lui. C'est lui qui a tout créé pour lui-même. Ce serviteur qui allait donc mourir sur la croix en portant les péchés du peuple, c'était Dieu lui-même. Paul va dire aux Corinthiens, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Ésaïe va dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Ce Messie qui devait venir donc, naître sur la terre sous forme humaine serait en même temps Dieu lui-même. Le Dieu le Fils qui est venu accomplir le plan du Père dans la puissance du Saint-Esprit pour apporter le salut et rendre possible ce salut éternel que Dieu avait en vue pour son peuple. Mais en attendant donc, Dieu dit, je vais devoir punir le péché de mon peuple. Et donc dans ce chapitre 6 que nous venons de lire ensemble, Dieu, comme s'il organisait un procès pour donner à son peuple la possibilité de se défendre contre les reproches qu'il leur fait, mais surtout pour montrer la justice de ce châtiment. Dieu établit un procès en disant, je vais plaider contre Israël. Explique-moi ce que moi j'ai fait de mal pour que vous choisissiez de pécher plutôt que de me suivre. Pour leur faire rendre compte que finalement, c'était de leur faute, c'était leur péché qu'il était en train de punir. Qu'ils n'avaient pas de justification pourquoi ils avaient péché contre Dieu. C'était un procès à l'époque donc entre Dieu et le peuple d'Israël avec qui il avait fait cette alliance, l'ancienne alliance. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu montre que finalement ce n'est pas uniquement le peuple d'Israël qui est concerné par cette situation, que ce n'est pas seulement Israël qui a péché contre Dieu. Puisque certes, il y avait cette alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, alliance particulière que le peuple n'avait pas respectée, mais Dieu dit, puisque je suis votre créateur à tous, ceux qui sont d'Israël et ceux qui sont en dehors d'Israël, puisqu'on vient de voir que rien de ce qui existe n'a existé sans lui. Donc, tous, nous avons des comptes à lui rendre, tous, nous devrions obéir à ses instructions, à ses commandements, puisque nous sommes ses créatures. Donc Dieu dit finalement toute l'humanité, je pourrais faire un procès contre toute l'humanité. Chaque être humain, en demandant, mais pourquoi est-ce que tu as choisi de ne pas me suivre, de ne pas m'obéir, de ne pas me reconnaître comme Dieu? D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 1, versets 18 jusqu'à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu dit à Israël, alors explique-moi, qu'est-ce que j'ai fait de travers pour que vous ne m'obéissez pas? Dieu nous dit que tous, nous sommes inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc dans le Nouveau Testament, c'est toute l'humanité qui se trouve dans la même situation. Romains 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Verset 13, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Tout être humain, nous dit la Bible, a hérité cette nature pécheresse qui fait que c'est plus fort que nous. Depuis notre naissance, nous ne sommes pas juste une feuille blanche ou un tableau blanc sur lequel on écrit des choses par la suite. Nous naissons avec une nature pécheresse en rébellion contre Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu intervienne, nous sommes donc inexcusables devant lui. Quoi donc, dit Paul dans Romains 3, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, français et luxembourgeois, anglais et portugais, sont sous l'empire du péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, comme Dieu appelle Israël à la barre dans Michée 6, la Bible nous dit que chacun, nous aurons un jour des comptes à rendre à Dieu, notre Créateur, pour ce que nous avons fait dans notre corps, dans cette vie sur la terre. Vous pouvez lire Matthieu 25, vous pouvez également lire 2 Corinthiens 5, 9 et 10, où Paul dit, « C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc ce chapitre où Michée parle d'un procès que Dieu lance contre Israël en l'invitant à la barre, nous nous trouvons tous dans cette même attente de se trouver devant la barre du Seigneur pour lui rendre des comptes. C'est pour cela que nous avons tous besoin d'une intervention de Dieu, tous besoin du salut. Tous nous sommes concernés, égal qui nous sommes. Donc, comment pouvons-nous être sauvés si nous avons besoin de ce salut? Les versets 6 et 7 sont intéressants dans ce texte parce que donc ça révèle bien le cœur de l'être humain devant cet appel à la barre lancé par notre Créateur. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Finalement, si la religion existe dans pratiquement toutes les cultures du monde, c'est parce que nous nous rendons compte, quelque part, malgré nous, de l'existence de notre Créateur, et que s'il est notre Créateur, nous avons des comptes à lui rendre et que nous devons trouver le moyen de nous présenter devant lui d'une manière qui nous rendra acceptable à ses yeux. Il y a bien des siècles, Augustin avait écrit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Et donc on cherche des moyens à répondre à ce besoin. Donc face à cet appel de Dieu, le peuple se demande que faire, comment se présenter devant Dieu, comment satisfaire Dieu et être acceptable à lui. Ils sont prêts à apporter toutes sortes de sacrifices pour que Dieu les accepte. Si on apporte des holocaustes ou des veaux d'un an, est-ce que l'Éternel agréera des milliers de béliers? S'il le faut, on les apportera. Des myriades de torrents d'huile, ils augmentent les quantités, parce que si les holocaustes ne suffisent pas, si les veaux d'un an ne suffisent pas, des milliers de béliers peut-être. Et si ça ne suffit pas, des myriades de torrents d'huile, ils vont jusqu'à dire, s'il le faut, est-ce que Dieu accepterait le sacrifice de notre premier-né pour couvrir notre péché? Mais le sens du passage ici dans Michée nous montre que finalement, on sait bien que rien de toutes ces choses que nous pourrions offrir à Dieu ne peut lui satisfaire. Michée tourne leur réaction en forme de dire en réalité, mais à quoi bon apporter des holocaustes, des veaux, des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile et même de sacrifier notre premier enfant? Cela ne satisfera pas Dieu, surtout le sacrifice de son enfant. En Jérémie 7, Dieu disait justement, « Les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet dans la vallée de Beninom pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Michée n'exagérait rien. Il voyait juste la réalité de ce qui se passait à Jérusalem et en Israël à l'époque. Et il leur disait, mais tous vos sacrifices jusqu'à vos enfants ne serviront à rien pour trouver la paix avec Dieu. Tout au plus, nous dit la Bible, comme Rodrigo nous l'a rappelé la semaine dernière, tout au plus les sacrifices établi par la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, pouvait au moins couvrir le péché, mais en attendant la venue de Jésus. Ici, nous voyons que finalement, les Israélites n'avaient même pas appris la leçon de Caïn qui disait, ben moi je vais apporter ce que j'ai envie d'apporter à Dieu et ce sera à lui d'accepter ce que moi j'ai envie de lui apporter. Dieu avait établi quel sacrifice il pouvait apporter en attendant la venue de Jésus. Mais il nous dit que même cela ne pouvait pas satisfaire Dieu. Le Nouveau Testament reprend ce thème dans le livre, la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 10. Il dit en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Qui était toute la question derrière Michée et Ésaïe. Si cette nouvelle Jérusalem est parfaite, il va nous falloir la perfection pour y vivre. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors que peut-on offrir à Dieu pour connaître cette perfection nécessaire pour entrer dans son règne, pour être en paix avec lui, pour qu'il habite dans notre cœur, pour qu'on trouve cette paix qu'a cherché Augustin? Ben finalement, d'une manière assez ironique, ces propositions du peuple d'Israël révèlent non pas ce qu'eux, ils devaient faire pour satisfaire Dieu, mais ce que Dieu a dû faire pour satisfaire sa justice. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Tu dis non, ça ne sert à rien. Cela n'effacera pas vos péchés. Par contre, la Bible nous dit que Dieu a révélé l'immensité de sa grâce à notre égard en ce que lui, il a donné son premier-né pour nous. Il a donné son Fils unique pour nous sauver. Romains chapitre 5 nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, lorsqu'on était encore en train de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu m'accepte? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Christ, autant marqué, le Fils unique de Dieu est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au lieu de nous, qui devrions offrir notre premier-né à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le seul qui pouvait nous sauver, c'est Dieu lui-même, à travers son Fils, que lui, il n'exige pas de nous pour le satisfaire lui, mais il l'offre pour nous, pour que nous puissions connaître la paix et la perfection. Alors pourquoi Dans quel but Dieu nous sauve-t-il? Verset 8. Michée pouvait déjà, à l'époque de l'Ancien Testament, dire « Pas la peine d'offrir tous ces sacrifices si votre vie ne change pas. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dieu sauvait son peuple pour vivre une vie tout particulière. Dans Lévitique 11, il dit « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis entré en relation avec vous. Je vous ai pris pour être mon peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Dieu, finalement, ne disait pas à Israël « Soyez un peuple saint et peut-être, si vous êtes suffisamment bon, je vous accepterai. » Il a dit, « Je vous ai choisi pour être mon peuple. J'ai fait de vous mon peuple. Maintenant donc, si vous croyez être mon peuple, si vous voulez être mon peuple, soyez saint. Je vous ai choisi pour être, pour vivre dans la sainteté. » Donc il leur était impossible de se justifier aux yeux de Dieu par leur sacrifice. Samuel disait à Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Des sacrifices sans sainteté, sans sanctification, était vain. Dieu nous dit, ne permettez pas que la grâce que je vous fais en Jésus-Christ soit en vain, mais vivez pour moi. Christ est mort pour nos péchés, mais justement, aujourd'hui, avant tout autre jour, nous nous rappelons qu'il est aussi ressuscité. Et en ressuscitant, il nous invite à entrer dans une vie nouvelle. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Paul dit, si nous croyons que Christ est réellement ressuscité, la preuve, ça ne va pas être simplement en récitant une phrase toute faite le dimanche matin du Pâques. Ça va être en vivant pour Dieu tous les jours. Car comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous laisse dans le monde après notre nouvelle naissance. La raison pour laquelle il ne nous transporte pas directement au ciel. Il nous fait entrer dans la vie de résurrection de Jésus pour que nous vivions, marchions en nouveauté de vie. Comme on a chanté tout à l'heure, sa résurrection se voit dans nos vies transformées. Il veut que nous entrions dans son règne, tout comme il proposait à Israël ce règne éternel. Seule question qui reste ce matin, c'est voulons-nous entrer dans ce royaume? Il nous dit que si tel est le cas, si nous aspirons à vivre dans ce royaume éternel où le péché n'existera plus, ce n'est pas la peine de vouloir lui faire toutes sortes de sacrifices. puisque lui a déjà fait le seul sacrifice qui compte, le seul sacrifice qui nous permet d'être en paix avec lui, d'avoir accès à la grâce de Dieu. Ce sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. Il dit donc, si nous voulons entrer dans son royaume, dans son règne, il faut simplement croire en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce matin donc, si nous voulons entrer, vivre dans ce règne, croyons en lui. Si nous croyons en lui, croyons qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Croyons que donc il est réellement ressuscité et qu'à travers lui, Dieu m'invite à vivre maintenant en nouveauté de vie.